de joyeux bandits, sachant rire et battre.
Radio Bandit.
Mangeant comme
quatre. Radio Bandit. Avec Ronde Courte. Puis des conciliabules.
Bonjour tout le monde. Alors nous avons avec nous Benoît Jacques, à ma gauche. Et en face de moi, Catherine Stabler.
Bonjour.
Des éditions Biscotto. Donc Benoît Jacques qui est l'invité d'honneur de cette première édition du Festival Bandit à Toulouse. Bonjour, merci d'être là pour cette première édition de notre Festival de Narration.
Merci de m'avoir invité.
Ah bah, écoute, pour nous c'est hyper important que tu sois là. On est super content de l'affiche qu'on a eu l'honneur de te faire dessiner. Et on est content parce que c'est un festival de narration où on invite quand même... beaucoup de gens qui s'auto-éditent, qui s'auto-produisent. Et du coup, toi, pour nous, c'était assez important. Enfin, on pense tous que tu es quelqu'un d'assez marquant en tant qu'auteur-éditeur dans ce paysage de l'auto-édition. Donc, ça fait 30 ans que tu t'auto-édites. Ce qui nous touche, donc, c'est déjà cette liberté que tu défends, le fait que tu t'auto-édites, que tu fasses des livres qui sont beaux et en plus, que quand même, ton esprit... t'as quelque chose de très foisonnant dans ton travail, il y a ce trait qui est très spontané, très riche, tu explores énormément de techniques. Il y a un côté assez, moi je trouve que t'as un côté très malicieux et espiègle un peu dans tes histoires qui nous plaît beaucoup, c'est vraiment frais. Et t'as une œuvre du coup qui est très large où t'as testé justement plein de types de narrations, ce qui nous intéressait aussi. T'as fait autant des flipbooks que de l'illustration, de la bande dessinée. Des fois aussi des petits objets, parce que je sais que tu avais une collection qui s'appelait Brin de Livres, tu
mettais
des petits chevalets.
Oui, c'était des tout petits livres qui étaient commercialisés à l'intérieur d'un petit sachet en plastique, refermés avec un petit cavalier en carton, avec bien souvent un petit objet à l'intérieur de l'emballage. C'est réminiscent de souvenirs d'enfance en réalité. La plupart du temps, d'ailleurs, mes livres sont très 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 proches de sensations ressenties et réinterprétées, de sensations de ma propre enfance. C'est très lié à des souvenirs, à des impressions. C'est cette idée de ces livres dans les sachets, c'était à la base, c'était un souvenir repris sur des choses que je voyais étant gamin en venant en vacances en France. Dans les petites épiceries, il y avait ces grands cornets de papier sur lesquels il y avait marqué le mot surprise.
Oui,
tu vois, et rien que ce mot et ce sachet bizarre avec cette forme de cône comme ça, ça évoquait tout un univers en réalité, même sans savoir ce qu'il y avait vraiment dedans.
Mais oui. Souvent en plus, c'était bon, toujours un peu décevant, mais on était quand même content d'avoir ce cornet surprise.
Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'être déçu, mais j'en ai jamais reçu, justement. Donc, il y a aussi ce côté frustration et de choses qu'on a envie de choses qu'on a envie d'explorer, parce que justement, c'est un espèce de territoire, comme un territoire peut-être inconnu, qu'on aurait souhaité visiter à un moment de sa vie. Et puis, et puis finalement, on passe son temps plus tard à essayer de le réinventer. C'est pas ce que je suis en train de te dire, c'est pas une mauvaise façon de décrire ma démarche en fin de compte. C'est une espèce d'exploration de territoire imaginaire et faire exister des fantasmes qui ont pu me traverser dans différents moments de ma vie.
Et ce qui est chouette en plus de, justement dans ton travail, c'est que du coup là tu nous parles de l'enfance, mais tes livres sont autant accessibles pour les petits que les grands. C'est autant, tu fais des choses autant pour enfants qu'adultes pour moi, et où il y a toujours un peu une seconde lecture. Je trouve vraiment c'est hyper agréable à lire. Enfin, je suppose pour un enfant d'un point de vue vraiment d'enfant, c'est toujours des histoires assez drôles avec plein un univers quand même. Qui est riche et en même temps quand on est adulte on ressent aussi ton côté de toi d'adulte tu caches plein de petites blagues un peu par-ci par-là qu'on comprend mieux en étant adulte. Du coup c'est chouette, c'est cette double lecture qui est un peu quasiment tout ce que t'as fait, je trouve.
Oui, alors par rapport à ça, si tu veux, je cherche vraiment à éviter que ce que je fais puisse être étiqueté une fois pour toutes comme étant ce qu'on appelle de la littérature jeunesse ou comme étant même de la bande dessinée. Enfin, dans ce qui m'intéresse au plan de la création, c'est d'être justement pas étiquetable, d'être tout le temps là où on m'attend pas, de circuler de façon très ouverte et très libre dans les choses qui me plaisent moi.
Ouais.
Et à partir de là, bon, on ne peut pas éviter que les gens nous collent des étiquettes sur le dos. Il se trouve que, bon, au travers de certaines choses que j'ai pu faire, on a décidé à un moment donné que j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un auteur jeunesse. Mais en réalité, ces considérations, elles ne m'intéressent pas du tout. Moi, je ne cherche pas à faire des choses en me disant « ça s'adresse à tel ou tel type de public ». Je cherche d'abord à m'adresser à moi-même et de faire en sorte que ce que je fais est cohérent par rapport aux envies et aux ambitions que je peux avoir par rapport à moi-même. Et puis après, bon, ben, les livres trouvent leur place vers tel ou tel public. Mais c'est jamais dans l'idée de clairement m'adresser à des enfants ou à des adultes. Et c'est sans doute pour ça qu'on trouve effectivement dans mon travail un petit peu de la nourriture pour tout le monde. Tu vois, par exemple, la notion d'humour qui est quand même, qui je pense traverse énormément des choses que je fais. L'humour, c'est une matière comme ça qui est manipulée par toutes sortes de gens et parfois mieux manipulée par des enfants que des adultes, même pour des choses qui supposément seraient plutôt adressées aux adultes.
Ouais.
En fait, moi, ce qui compte pour moi essentiellement, c'est de faire des choses qui respirent une espèce d'idée de la liberté, de création, et puis voilà.
Mais, du coup, ça, en fait, c'est aussi, enfin, j'imagine que c'est pour ça que tu as créé ta propre maison d'édition. C'était aussi pour être complètement, un peu, pour t'écarter encore plus de justement te faire éditer peut-être par des éditeurs qui sont clairement jeunesse ou peut-être des choses comme ça, que tu voulais vraiment être libre et avoir ton justement. Ta maison d'édition qui était clairement justement qui est, où il n'y a pas d'étiquette, tu fais vraiment ce que tu veux pour les âges que tu veux, mais du coup il y a même, ça rentre pas en compte. Est-ce que c'est vraiment aussi pour ça que tu as choisi de t'éditer, pour ne pas du coup pour éviter au maximum d'être pas libre et étiqueté
Mais en fait, si tu veux, quand tu disais en introduction que ça fait 30 ans que je le fais, la chose qui est assez émouvante pour moi, c'est qu'au départ, évidemment, j'ai souhaité me faire publier comme n'importe qui par une maison d'édition. Et à l'époque, je vivais à Londres et les premiers projets que j'ai eu envie de présenter à des éditeurs ont chaque fois essuyé des refus, un peu pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'on n'identifiait pas clairement à qui ça pouvait s'adresser. J'ai assez vite compris que le monde fonctionne, parce qu'on est dans un monde, je pense, très très obsédé de commerce, fonctionne avec la notion d'étiquette, parce qu'effectivement, quand on peut coller une étiquette sur quelque chose à vendre, supposément, ça se vend mieux. Et du coup, bon ben, comme j'ai toujours fonctionné comme ça de façon tout à fait décalée par rapport à toutes ces notions-là, les éditeurs ne comprenaient pas forcément ce que je cherchais à exprimer, n'arrivaient pas à bien situer à qui pouvait s'adresser mon travail. Et donc dans un premier temps, je n'ai pas trouvé de maison d'édition qui voulait ce que je faisais. Et c'est un petit peu ce qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a fait décider, puisque personne n'en veut, je vais voir si je ne peux pas me débrouiller tout seul. On pourrait dire que ça a presque démarré par dépit plus que par choix. Quoi.
Ouais, ouais.
Mais chemin faisant, il s'est trouvé que j'ai finalement d'abord réalisé que si on ne savait pas trop à qui ça s'adressait, ça se vendait quand même. Donc ça s'adressait à ceux à qui ça s'adressait. Ça reste quelque chose de très vague, mais ça me plaît beaucoup. Et que du coup, voyant que ça fonctionnait plutôt bien, j'ai continué.
Ouais.
Donc c'est une aventure, si tu veux, qui reste une aventure sur le fil, qui est évidemment par sa nature même assez précaire, mais aussi assez, j'ai envie de dire, assez jolie par sa propre fragilité. Chaque livre questionne le livre qui va venir après, parce que déjà, économiquement, s'il ne se vend pas, c'est un problème pour financer le livre suivant. Et donc, y a vraiment une espèce de phénomène qui aussi s'auto-nourrit dans cette histoire d'auto-édition, que chaque livre va peut-être amener l'idée du livre qui va suivre, histoire de ne pas faire la même chose, justement, histoire de prendre les gens par surprise, d'explorer ce territoire énorme et passionnant, évidemment, du livre.
Et du coup, toi, tu comment en fait, donc t'es auteur et aussi éditeur et même tu t'occupes de tout en fait parce que tu diffuses toi-même aussi, c'est toi qui va qui démarche les librairies. Et du coup, on se posait un peu la question, on se demandait est-ce que pour toi faire tout ça, tout ce qui est la gestion un peu d'une maison d'édition, est-ce que c'est tu dissocies ça quand même de ton travail d'auteur ou pour toi c'est vraiment c'est tout ça c'est un tout et c'est juste la continuité pour d'éditer les livres et de les et d'aller rencontrer les gens pour les vendre. Est-ce que pour toi ça fait partie de ton travail d'auteur, c'est la suite de ça, ou est-ce que quand même tu dissocies, enfin comment tu trouves un équilibre entre le fait de gérer un peu une maison d'édition et de travailler aussi
pour moi c'est un tout, et je trouve d'ailleurs que c'est une façon de démystifier la notion même de l'artiste, quoi. On a toujours cette espèce d'idée que les artistes seraient des gens un peu au-dessus de la mêlée, qui ont pas à se préoccuper de considérations économiques par exemple. J'en parle souvent les fois où on me demande d'intervenir dans des écoles d'art, parce que dans les écoles d'art, on ne parle pas aux jeunes artistes de la problématique de gagner sa vie, par exemple. On imagine toujours qu'on va faire son art comme ça, dans une espèce de territoire où il y aurait pas de problème d'argent, alors que finalement, la question économique, elle se pose à tout le monde. Toutes nos vies sont conditionnées par le fait d'arriver à, d'une manière ou d'une autre, financer sa nourriture, ses notes d'électricité et compagnie. Et donc, pour moi, le fait d'avoir aussi, en marge de la création, on va dire, en marge des aspects créatifs qui pourraient être vus comme les plus excitants, d'avoir aussi à faire des paquets, à envoyer des paquets à des libraires, faire des factures, courir après les sous qu'on me doit, etc. Pour moi, ça contribue à l'ensemble de l'aventure. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça, je pense que ma façon de réfléchir aux livres que j'ai envie de faire serait complètement différente. Il faut, à un moment donné, accepter qu'on est dans le monde et que quand on fait des choses, il faut que ça parle aux autres. Si ça ne parle pas aux autres, y a un problème. Donc, des occasions comme celle-ci, un festival, c'est extraordinaire pour moi parce que c'est une façon de prendre la température, de voir est-ce que ce que je fais continue d'avoir une résonance auprès des gens qui regardent mon travail, quoi.
Et du coup, pour toi, j'avais déjà lu que tu disais que pour toi le livre c'est ça la finalité de l'œuvre en fait. C'est plus vraiment l'objet du livre que tes originaux. C'est là que tu te dis que c'est fini vraiment et que pour toi la fin c'est le livre, vraiment l'objet du livre. Enfin, j'avais lu que tu avais déjà dit ça.
Alors oui, c'est-à-dire que si je pense au livre, mais je fais pas que des livres, mais si je pense que ce que j'ai envie de faire comme travail artistique, on va dire, prend la forme d'un livre, les originaux, on s'en bat l'œil. C'est un peu comme, si tu veux, ma façon d'écrire, tantôt dans des petits carnets, tantôt sur un ordinateur. C'est pas ça l'objet terminé. C'est un petit peu comme si tu penses à un peintre qui dirait « Regardez comme mes tubes de couleurs sont intéressants. »
Oui, d'accord.
En fait, on s'en fiche. Donc effectivement, comme le livre fait intervenir toutes sortes de considérations techniques et d'interventions de la part d'autres gens, à savoir des imprimeurs, des relieurs, toute une série de spécialités que moi je ne domine évidemment pas, c'est très important d'accorder énormément d'attention à comment ces étapes vont se produire, pour être sûr que l'objet final soit à l'image de ce que j'en attends, quoi. Donc par exemple, je crois que je n'ai jamais imprimé un livre sans être, comme on dit dans le jargon, sur machine le jour où ça s'imprime, parce que c'est un moment très chouette et très émouvant et très stressant également, parce que ça va vite. Mais ne pas être là, c'est prendre le risque qu'il y ait un problème simplement technique, un choix de couleur sur lequel on n'a pas fait attention, et puis ça va tellement vite qu'une fois que la chose est finie et imprimée, si on n'était pas sur place, il ne faut pas se plaindre de ce que peut-être un rouge ou un jaune ne soit pas tel qu'on le souhaitait, quoi.
Et du coup, comment tu décides de tes formats, tes papiers, un peu tout ça, est-ce que aussi comment tu, parce que tu réédites des livres qui sont souvent différents, pourquoi du coup, est-ce que tu à chaque fois tu as envie de faire par exemple un autre objet, ça te plaît de le faire vivre sous une autre forme, ou est-ce que tu penses à je sais pas à rajouter des choses, ou enfin comment tu est-ce que tu déjà tu réédites beaucoup quand même tes livres, il y en a que tu réédites pas du tout ou pas?
Ah oui, le gros de ce que j'ai fait n'existe plus,
hein. D'accord,
franchement ouais. C'est ça qu'il faut voir aussi. Alors les choix de réédition, c'est vraiment des choix qui sont liés en partie au succès de certains de mes livres, et bon, où je sais que ne pas les avoir sous la main, c'est pas une bonne idée parce qu'ils entraînent les autres. Les considérations, alors après, de les refaire à l'identique ou de changer quelque chose peuvent être liées à l'état de mes finances au moment où je décide de rééditer. Un livre cartonné, c'est beaucoup plus cher qu'un livre broché. Donc, par exemple, il y a pas mal des quelques rééditions que j'ai pu faire où l'édition initiale était cartonnée, puis la réédition est brochée parce que, voilà, il n'y a pas forcément ni les moyens de le refaire en cartonné, et puis l'envie aussi de mettre l'argent dans quelque chose de neuf. Mais de toute façon, c'est aussi très fort sous-tendu par mon désir de courir après ce livre incroyable à faire que j'aurais pas encore fait, si tu veux. Et que donc, tout ce qui me permet d'expérimenter, de chercher d'autres façons d'imaginer cet objet, c'est des occasions qui sont intéressantes à explorer. Je peux donner plein d'exemples de ça, mais par exemple, le fait de relier un livre avec cette méthode dite à la japonaise, où tu sais les pages sont pliées en deux, et il n'y a que le recto qui est imprimé, pas le verso. Ça donne des objets qui, à la main, enfin quand on les touche, quand on les manipule, ont une espèce de souplesse parce qu'ils contiennent beaucoup d'air. C'est un peu comme des petits accordéons, et donc du coup ils sont très doux, ils sont très spéciaux quand on les tient en main. On réalise pas forcément tout de suite qu'ils ont été reliés de cette façon-là, mais on sent qu'il y a quelque chose de différent par rapport à un livre qui est fait de façon plus classique, avec les bords du livre coupés traditionnellement.
On voit que ça se voit beaucoup dans tes objets de livre, on voit qu'il y a vraiment de la délicatesse, vraiment des objets délicats qui sont quand même, c'est joli, il y a des découpes, il y a des encres dorées, et ce papier, c'est vrai que cette méthode à la japonaise, ça rend vraiment l'objet... délicat et aéré. Et du coup, maintenant, pour parler un peu plus du fond, des thèmes que tu explores, il y a quand même quelque chose qui revient souvent dans ton œuvre, c'est quand même ce détournement des langues. On sent que t'aimes beaucoup jouer avec les mots. D'ailleurs, tu changes pas mal de noms des fois. On te connaît sous Benito Giacomo, Benotovic, Jakovic. T'as inventé souvent plusieurs noms. Et du coup, d'où vient ce plaisir un peu de jouer avec les langues comme ça, parce que tu en utilises des fois certaines qui n'existent pas, d'autres fois t'en utilises certaines et tu les mixes ensemble, des fois tu fais juste des jeux de mots mais en français, et du coup d'où vient un peu ce plaisir du
langage? Alors là, moi je pense que j'ai pas les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à mon propre travail, mais je pense qu'il y a quand même une explication liée à mes origines belges. La Belgique, c'est un pays quand même assez étrange, hein, où on parle trois langues. On oublie souvent qu'il y a une toute petite partie de la Belgique où la langue, c'est l'allemand. Il y a évidemment la partie francophone, d'où on pourrait dire que je viens, puisque je suis bruxellois d'origine, et puis la Flandre. Je crois que la plupart des Belges sont une espèce de mélange bizarre. Déjà, bon, moi, ma maman, elle vient de Flandre et mon père était bruxellois. Donc, il y a déjà cette confrontation des langues qui est là depuis tout petit. Et puis, il y a sans doute aussi quelque chose de lié à ce que j'aurais envie d'appeler une forme de complexe du Belge. C'est-à-dire que... On sait qu'on manipule plusieurs langues, mais on fait toujours rire les autres avec notre façon de les manipuler. Les Français trouvent qu'on a un accent rigolo. Les Hollandais trouvent que les Flamands parlent le néerlandais de façon assez rigolote. Et je pense que les Allemands pensent que les Belges allemands, quoi, enfin qui parlent l'allemand, le parlent aussi de façon un peu étrange. Donc cette façon... un tout petit peu maladroite d'utiliser la langue, elle me plaît beaucoup. Et puis après, il y a cette autre notion qui, moi, me touche, c'est que finalement, on a tous des notions de tout un tas de langues dans nos esprits, mais on n'y pense jamais. Mmh. C'est-à-dire qu'étant européen, on est confronté tous à l'italien, à l'espagnol, à l'allemand, à l'anglais, etc. Et du coup, on a des notions de ces langues, même du grec. Et puis, mais ça semble un petit peu loin de nous, mais en même temps, il suffit de se rendre dans un de ces pays pour se rendre compte que si on doit se débrouiller pour demander à manger, ben, qu'on va savoir dire panini ou taramasalata ou que sais-je.
Ouais, c'est vrai qu'on a tous un petit...
Ça me plaît bien, ça me plaît bien.
Un petit espéranto dans la tête.
Et puis alors, pour finir là-dessus, c'est aussi, bon, ça c'est mon plaisir à moi, mais c'est ma façon très proche de l'enfant maternel de fonctionner, c'est-à-dire c'est le jeu qui prime, que ce soit avec la langue ou avec les images, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est le jeu, c'est-à-dire mais le jeu sérieux, j'ai envie de dire, même ce qui est drôle, c'est fait avec beaucoup de sérieux, c'est-à-dire de bien manipuler l'humour, de le manipuler avec intelligence et raffinement, et pas n'importe comment, pas que ce soit lourd, que ce soit plutôt léger. La maternelle, ça peut sembler bizarre de dire ça quand on a passé 60 balais, mais c'est un moment extraordinaire de la vie parce que les enfants maternels, ils sont hors du jugement. On les a pas encore trop ennuyés avec ces idées de « toi, tu dessines bien, toi, tu dessines mal ». Ils sont donc très, très ouverts et très prêts au jeu. D'ailleurs, on s'en souvient tous, on fonctionne et on découvre par le jeu. Le jeu collectif, le jeu individuel, le jeu sur le langage. Les enfants sont très forts avec les jeux sur le langage. Et puis du coup, ils avancent par le jeu, quoi. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui continue de vraiment me fasciner. C'est d'apprendre à bien jouer, bien jouer. Avec les images, le livre, c'est un territoire de jeu fabuleux. Les papiers, les formats, les encres, les couleurs, tout ce qu'on peut mettre dans un livre. Comme je disais, on n'a pas fini d'explorer ce territoire qui a été exploré déjà des millions de fois par des millions de gens extraordinaires. Mais c'est un objet magique, le livre, franchement.
Ben ouais. Puisqu'on reparlais d'enfance et tout ça avec Catherine, on a vu une interview de toi. Et du coup, il y a une question à laquelle on n'a pas trop eu la réponse, c'est « Quel livre lisais-tu petit ?» Je ne sais pas si tu vois de quelle interview je parle, c'est une interview de toi que tu t'es auto-interviewé dans une langue qui s'apparente à du russe ou quelque chose comme ça.
Ah oui, mais alors là...
C'est très très drôle.
Cette vidéo-là, elle avait été faite pour les besoins d'un salon du livre où il avait été demandé à plusieurs auteurs de faire un autoportrait filmé.
D'accord.
Et bon, moi, j'aime pas du tout, en fait, j'aime pas du tout l'idée de, je vais dire, de rouler des mécaniques, de dire regardez ce que j'ai fait. J'aime pas ça. Parce que dès qu'on fait ça, en fait, on est un peu mort, quoi. Et donc, il y a un grand besoin chez moi de me moquer de moi-même. C'est plus fort que moi, mais c'est une façon aussi de peut-être de protéger la fragilité de mon enthousiasme. Et donc, je m'étais dit, il est hors de question que je dise, je suis Benoît Jacques, ça fait 30 ans que je fais des livres. Enfin, tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, j'ai eu envie de, par contre, parler de cet aspect très double de peut-être ma personnalité, de toutes nos personnalités, c'est-à-dire... Il y a à la fois le fou furieux qui invente des choses, qui est en maternelle, qui est dans son délire, qui joue. Et puis, il y a l'autre personnage qui existe aussi en moi par le simple fait de ma façon de fonctionner, qui est, j'ai envie de dire, l'homme d'affaires, quoi, le gars qui fait des paquets, le gars qui fait des factures. Et donc, pour faire ça de façon rigolote, j'ai imaginé un drôle de bonhomme qui parle une langue que personne ne comprend. Alors je te rassure tout de suite, c'est pas du russe, c'est du rien du tout.
Oui, ça y ressemblait vaguement, mais on avait compris que c'était pas...
Je délire, quoi. Et puis il y a le type sérieux, c'est un sorte de faux journaliste de la télévision qui interroge le créateur, on va dire. Bon, et Et les deux personnages, évidemment, n'arrivent pas à trop se comprendre. D'abord parce que la langue qu'ils utilisent, elle n'existe pas. Mais aussi parce qu'ils sont, on pourrait dire, sur deux planètes différentes, quoi. Le joueur et l'homme sérieux. Et alors, bon, ben, pour ajouter encore quelque chose à l'aspect complètement loufoque de cette vidéo, les textes qui sont, enfin, les mots qui sont dits sont traduits
en sous-titres,
mais par quelqu'un qui parle mal le français.
Mmh, oui.
Et donc, c'est plein de fautes d'orthographe. Enfin, bon, c'est du gros délire.
Et du coup, quel livre lisais-tu petit ?
Alors, j'étais pas un grand lecteur.
Tu lisais
pas
beaucoup.
J'ai un peu honte de le dire. Non,
non, après,
j'ai lu beaucoup de BD. J'ai lu et écouté aussi beaucoup, tout petit, trucs comme le Babar. Je me souviens de Babar. Alors, dans les lectures qui ont peut-être marqué, franchement, l'enfance, mais c'est difficile de bien se souvenir, mais il y a quand même un bouquin que j'ai vraiment aimé et je crois qu'il a joué peut-être un rôle dans cette envie d'associer le texte et l'image. Mmh. C'est un livre de Dino Buzzati qui s'appelle La fameuse invasion des ours en Sicile, qui a été réédité d'ailleurs très joliment récemment par Gallimard, je crois.
D'accord.
Et ce qui m'a tout de suite plu dans ce livre, c'est que l'auteur a écrit le livre, mais il a fait les illustrations également.
D'accord.
C'est l'histoire d'une bande d'ours qui envahissent en fait le pays des hommes et qui prennent tous les travers des hommes. Ils deviennent alcooliques. C'est absolument pas politiquement correct. Ils boivent, ils volent, ils s'intéressent à l'argent, aux jeux d'argent. Enfin, ils font que des bêtises. Mais c'est absolument super, quoi. C'est un très très beau livre. Et il y a des personnages très bizarres. Il y a un espèce de magicien. Et gamin, ça m'a vraiment marqué, quoi. Et ça m'a marqué vraiment par cette association de l'auteur qui écrit et qui dessine les dessins de sa propre histoire. J'ai trouvé ça, j'avais jamais vu ça trop avant. Mmh. C'était soit quelqu'un écrit et il y a un illustrateur, soit c'est un livre comme une bande dessinée avec des dessins d'un dessinateur. Mais là, c'était vraiment... J'ai eu envie de faire ce genre de choses, quoi. Quand j'ai vu ça, je me dis, ça, je ferais bien ce genre de choses. Et donc voilà, toutes ces années après, je fais un peu ce genre de choses. Quoi.
Du coup, tu fais de la vidéo, tu fais, bien sûr, de la bande dessinée, de l'illustration, des flipbooks. Tu fais aussi, tu as déjà fait des lectures aussi en direct de La Vallée Enchantée, du coup, c'est plutôt proche du théâtre. Tu as travaillé aussi pour un spectacle de marionnettes. Et en fait, donc, tu explores vraiment à peu près toutes les pratiques artistiques. Déjà, rien que dans tes dessins, tu changes de technique quasi à chaque fois que tu fais un livre. Et du coup, est-ce que tu es vraiment un touche-à-tout ? Est-ce que tu fais du volume aussi ou pas ?
Oui. Mais moi, je suis vraiment un bricoleur. Hein. Mmh. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un peu Jojo la bricole. Quoi. Je suis très, très admiratif des artistes qui arrivent à s'en tenir à un mode d'expression pointu, limité, qui font... C'est peut-être ce qui me fait le plus souffrir, moi, dans mon fonctionnement. C'est l'idée, je suis incapable de m'en tenir à une façon de faire. Et du coup, parfois, je me dis peut-être que je fais rien de vraiment tout à fait bien. Les bouquins, je crois que ça, je fais bien. Enfin, j'essaye de faire le mieux que je peux. Mais au niveau... Il y a toujours cette question, mais qui est très belle aussi, du sentiment qu'on peut avoir d'être un peu illégitime dans ce qu'on fait. Ça c'est un très très beau sujet de discussion, parce qu'en réalité, moi j'ai eu le sentiment en grandissant, en admirant évidemment des artistes, etc., que c'était toujours des gens qui étaient mais tellement extraordinairement sûrs d'eux, sûrs de pourquoi ils faisaient les choses comme ils les faisaient, et en avançant, moi j'ai maintenant, j'en reviens pas, j'ai l'âge de ces gens, je suis même plus vieux que certains de ces gens que j'ai admirés comme ça, et j'ai l'impression que moi je suis mais encore pétri par le doute, absolument pas sûr de moi, incapable de m'en tenir à une façon de faire, d'avoir tout le temps besoin de changer, et alors peut-être que tous ces gens en fait ils cachaient très bien leur jeu, hein, ça j'en sais rien, mais
des chances.
Mais si tu veux, ça me fait dire, lorsque j'ai ces très belles occasions de rencontrer des étudiants dans des écoles d'art, de leur expliquer que la distance qu'il y a entre eux et moi, elle est minuscule. Eux, ils imaginent, en me voyant probablement, bah, lui, c'est un vieux qui fait ça depuis longtemps. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais en fait, je suis comme vous, je suis exactement comme vous. J'ai juste un truc en moins, c'est la jeunesse. mais je suis dans ce questionnement permanent de pourquoi est-ce que je fais les choses comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de changer? Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Je voudrais faire mieux. Oh, je voudrais tellement faire mieux. Tu vois?
Ouais, mais après, moi, pour le coup, je trouve ça plutôt positif. Je trouve pas que ce soit de l'éparpillement de toucher à tout. Je trouve qu'au contraire, c'est ça qui fait justement une œuvre hyper riche. Et je trouve qu'en plus, ça évite de tourner en rond, ce qui est plutôt chouette et ce qui est bien dans ton travail, justement. Parce que je pense que si tu avais toujours fait, comme tu dis, si tu étais resté à un style ou une technique... Je pense que ce serait pas aussi bien, quoi.
Merci, merci.
Et je sais pas trop où on en est, je suppose. Ouais, on peut continuer à parler des heures, hein. De toute façon, on est bien là, non ? Catherine, est-ce que je sais pas si toi tu as une question à poser à Benoît ?
Non, mais en écoutant, je trouve ça hyper rassurant d'entendre quelqu'un comme ça dire que ben on doute, et ça donne vachement de voir en fait avec du doute ce qu'on arrive à faire. Ben ça fait du bien à entendre en fait. Voilà.
Et le doute, c'est très beau. Et puis alors, ce qu'il y a de très très beau autour du doute, c'est cet autre aspect que moi je trouve absolument mystérieux, incompréhensible, c'est le côté magique aussi. C'est-à-dire qu'il y a, dans tous les processus de création, il y a évidemment... Il y a toutes les choses très directes, l'enthousiasme, le désir, l'envie, tout ça, magnifique. Puis vient évidemment, tôt ou tard, s'immiscer là-dedans les notions de doute, de difficulté, d'épreuves à surmonter. Et puis, il y a à un moment donné, parfois, mais cette chose très bizarre qui semble venir d'ailleurs que de nous-mêmes, je trouve, qui serait une forme de grâce pendant... Pendant un moment, on ne sait pas très bien pourquoi il y a énormément d'artistes qui ont parlé de ça, réfléchi autour de ça. C'est cette impression de ce que j'ai encore entendu dire par des peintres de l'intervention de la troisième main. Mmh. Et ça c'est une notion que je trouve extraordinaire parce que. Ça, d'abord, ça rend modeste parce que ça aide aussi à comprendre que revendiquer les choses qu'on fait ne sert pas à grand-chose, finalement. On est traversé par un désir de faire, on fait. Et puis, une fois qu'on a fait, la chose qu'on a faite nous échappe complètement. Elle ne nous appartient absolument plus. Donc, l'agiter devant le reste du monde en disant « Regardez ce que j'ai fait », c'est assez vain, c'est assez idiot. C'est sorti de nous et c'est fini. Et moi, je ressens ça très fortement parce qu'il y a des choses que j'ai faites dans des conditions où on pourrait dire que je me suis surpris moi-même à les faire, arriver à les faire, à par moments trouver que ça me dépassait et puis à me dire bien souvent il est probable... plus que probable que je ne serais plus capable de refaire ces choses-là.
Mmh. Tu penses à quoi quand tu...
Mais par exemple, il y a quand même un livre très important dans cette espèce d'enchaînement de publications qui est un livre particulier parce qu'il est en décalage par rapport au reste. C'est pas un livre drôle, c'est un livre que j'ai fait dans des conditions difficiles, qui est ce livre qui a été aussi de façon un peu paradoxale publié, non pas par moi, mais par la maison de l'association, les éditions de l'association, qui s'appelle Elle, la lettre L, qui est un peu le livre de ma crise de la cinquantaine, qui a été fait dans des conditions très bizarres. C'était à l'origine, ce n'était pas un projet de livre, c'était plutôt une sorte de journal intime dans lequel j'avais besoin de déverser un mal-être profond. Et finalement, c'était une sorte de bouée de secours pour exprimer tout ce qui n'allait pas dans ma vie à ce moment-là. Et au bout du compte, ce travail, à un moment donné, j'ai senti que j'avais l'hémorragie s'était calmée. Hein. C'est vraiment... Je parle d'hémorragie parce que c'était, l'impression d'un saignement qui a pris la forme d'un saignement à l'encre, mais c'est quand même un saignement. Et quand j'ai senti que c'était fait, ben, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ça? Et à l'époque, Jean-Christophe Menu était encore l'éditeur principal de l'association. Et il m'a dit, mais Benoît, va au bout de la démarche, débarrasse-toi de ce truc, publie-le. Et j'ai dit, mais non, ça, moi, je ne veux pas, en fait. C'est trop proche de moi, c'est trop... C'était simplement beaucoup trop chargé émotionnellement. Et il m'a dit, bah, si tu veux, je le fais comme tu veux qu'on le fasse, mais je le fais. Alors je le suis, mais infiniment reconnaissant, parce qu'il a eu raison de me dire d'aller au bout de cette démarche-là, de me débarrasser de cette chose. Et c'est vraiment un livre très emblématique de ce que je venais d'exprimer par rapport à l'idée du fait d'être traversé par des événements qui s'expriment peut-être parfois de façon créative et de ne pas les revendiquer après comme j'ai fait ceci, j'ai fait cela. À la limite, la démarche ultime, ce serait de même plus mettre son nom. J'en suis pas encore là.
Et elle, ouais, c'est un livre qui est hyper, hyper beau et hyper intense, surtout au niveau des dessins. Et je trouve que c'est ton livre où limite il y a le plus un peu le côté art brut qu'il y a dans ton dessin. Je sais pas si tu peux voir ce que je veux dire, mais je trouve que dans ton dessin il y a souvent quelque chose un peu, c'est pas naïf du tout, mais il y a un côté un peu art brut, vraiment vivant, hyper spontané. Je trouve que dans Elle ça se retrouve beaucoup. Il y a vraiment des cases qu'on pourrait sortir des pages et qui pourraient être à la Halle Saint-Pierre sans problème, pareil, la musée d'art brut.
Non, mais là tu, évidemment, tu as non seulement complètement raison, mais tu touches à quelque chose qui a aussi beaucoup d'importance pour moi, parce que pendant des années, j'ai gagné ma vie comme illustrateur de presse. Mm-hmm. Et le dessin de presse, bon, c'est un moyen d'expression très chouette, sauf qu'il y a quand même une chose importante, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On est au service d'un article et on vient là comme supplément pour donner une espèce de fenêtre visuelle sur un texte, quoi. Donc, bien souvent, ce qui se passe dans les rédactions des journaux, c'est que quand ce sont des choses un peu compliquées à illustrer, c'est on demande à voir une esquisse. Mmh. Et donc, moi, pendant des années et des années, j'ai fonctionné comme ça, c'est-à-dire de faire des images, mais très préparées, très calibrées, très... Bon, il y a... Il y a des contingences techniques très précises. Hein. On a un espace à remplir et si c'est un espace vertical, il ne faut pas faire une image à l'horizontale, ça va de soi, etc. Et du coup, j'ai eu à cœur vraiment pendant de nombreuses années d'essayer de sortir de cette façon de faire où il y a toujours des dessins préparatoires, où on balise le terrain à l'avance pour ne pas se planter, pour ainsi dire. Et dans mes réflexions, alors ça c'est vraiment par rapport à mes désirs personnels, par rapport à la création, j'ai aussi un intérêt très profond pour justement les choses qui ne sont pas préparées, qui sont pas, où il n'y a pas de filet, quoi, où on accepte le risque total de se casser la figure quand on dessine. Et du coup, évidemment... Elle, c'est un peu particulier puisqu'il n'y avait pas de projet éditorial à la base, donc je ne m'inquiétais pas de savoir si ça allait être vu ou non. Mais en tout cas, c'est un exercice très intéressant pour soi-même de se lancer à faire... Bon, là, en l'occurrence, c'est en plus c'est des planches de bande dessinée, donc c'est des feuilles sur lesquelles je mets en place une structure avec des cases et des espaces à remplir avec du dessin. Mais sans savoir... Si arrivé à la troisième case, je vais pas me planter, tu vois. Donc voilà, c'est cette aventure là elle est très intéressante au niveau créatif, c'est que ben oser aller, et je crois que c'est en ça que effectivement on pourrait rapprocher ça de l'art brut fait par des gens qui sont complètement en dehors des considérations de réussir ou rater. Ils sont dans quelque chose de bien plus important que ça.
Comment ça se fait du coup que tu n'aies pas voulu l'éditer toi-même, celui-ci ?
Si tu veux, c'est vraiment lié au contexte émotionnel dans lequel ces dessins ont été produits. C'était un moment très très noir comme le livre de ma vie, même s'il y a des choses assez drôles dans ce livre. Mais c'était trop proche de moi, je ne me voyais pas du tout derrière une éventuelle édition que j'aurais faite, aller en librairie, dire regardez, j'ai fait un livre sur ma crise de la cinquantaine.
Oui, c'était sur la
c'était impossible. Oui. Voilà. Tout ça, ça aurait pas été possible, franchement.
Du coup, ce que tu peux nous dire sur quoi t'es en ce moment? Qu'est-ce que tu vas faire après le festival Bandy? Quel est ton programme?
Alors, je vais en dire un tout petit peu, mais très peu, parce que je n'aime pas vendre la peau de l'ours. Je travaille sur un livre qui... Bon, alors mes livres mettent beaucoup de temps. Hein. C'est des gestations très longues qui prennent plusieurs années. Et bien souvent, en fait, j'ai plusieurs plats sur le feu, on va dire, des choses mises à réfrigérer un moment, des choses en cours, etc. Mais il y a un livre auquel je tiens beaucoup qui sortira cette année, qui est le livre sur lequel je travaille depuis environ 3 ans, que j'espérais sortir l'année passée, mais ça ne s'est pas fait pour tout un tas de raisons. Et c'est, là, on pourrait dire que c'est un livre qui va parler aux enfants autant qu'aux adultes. Je le sais parce qu'il est d'une approche très directe, très simple, c'est très coloré. C'est pas de la bande dessinée. Mais après, vous en dire plus, ça, je veux pas parce que c'est encore trop... on est trop près du moment où il va sortir et donc c'est trop angoissant pour moi d'en dire plus que ça.
D'accord.
Ça sera une surprise.
Ça sera une surprise. Ouais. Ça sera notre petit cône surprise. ok, bah, je sais pas si non, mais moi, j'ai pas de questions qui viennent en tête. Je sais pas si... De toute façon, je pense qu'on est... On est dans les temps. Mais écoute, Benoît, du coup, oui, alors, donc il y a ton exposition aussi au festival, je le précise quand même pour ceux qui ne savent pas, donc on peut voir tous tes beaux originaux, qui, comme tu as dit, du coup, ça ne sert à rien finalement, les originaux. Donc, mais quand même, ils sont très beaux, donc ça peut valoir le coup de venir y jeter un œil. Il y a tes livres aussi. Et ben, encore une fois, on est. Même si je sais que ça va t'énerver qu'on dise qu'on est reconnaissant et que tu nous fais l'honneur d'être là, mais vraiment, on est hyper, hyper heureux de t'avoir et que tu sois là avec nous, d'avoir tes dessins en affiche, ton expo, c'est un vrai plaisir.
Mais ça m'énerve pas, mais vraiment, c'est moi qui suis reconnaissant. Hein. Franchement, au moins aussi reconnaissant que tu es reconnaissant. On est tous reconnaissants.
C'est super.
C'est pour ça qu'on se reconnaît.
Bon, bah merci beaucoup. Merci à Onde Courte, hein, qui est du coup la web radio du libre. C'est bien. C'est parfait pour parler de liberté. Merci.
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 De joyeux bandits, sachant rire et battre.
Radio Bandit.
Mangeant comme quatre.
Radio Bandit. Avec Onde Courte.
Fidé, conciliabule.